Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.
Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de Radio Saint-Ferréol. Je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau numéro de Donnez-moi de vos nouvelles. Pour cet échange de lettres entre un homme et une femme, j'ai choisi ce mois-ci un livre de Amélie Nothomb, écrivaine qu'il est inutile de présenter. Elle publie un livre par an depuis 1992, 18 livres jusqu'à ce jour. Ce roman, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, Une forme de vie, a été publié en 2010 aux éditions Albin Michel. Il a rencontré un succès considérable. Il figurait d'ailleurs dans la première sélection du prix Goncourt 2010. Dans ce roman, Amélie Nothomb se met en scène. Elle relate sa correspondance fictive avec un jeune Américain engagé dans l'armée et qui se retrouve depuis 6 ans en Irak, à Bagdad. La musique qui ponctue cette lecture est de Johnny Cash et s'intitule Hurt. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Écoutez plutôt. Ce matin-là, je reçus une lettre d'un genre nouveau.
Chère Amélie Nothomb, je suis soldat de 2e classe dans l'armée américaine. Mon nom est Melvin Maple. Vous pouvez m'appeler Mel. Je suis posté à Bagdad depuis le début de cette fichue guerre, il y a plus de 6 ans. Je vous écris parce que je souffre comme un chien. J'ai besoin d'un peu de compréhension. Et vous, vous me comprendrez, je le sais. Répondez-moi, j'espère vous lire bientôt. Melvin Maple, Bagdad, le 18 décembre 2008.
Je crus d'abord à un canular. À supposer que ce Melvin Maple existe, avait-il le droit de m'écrire de telles choses ? N'y avait-il pas une censure militaire qui n'eût jamais laissé passer le « fucking » devant « war » J'examinai le courrier. Si c'était un faux, l'exécution en était remarquable. Une timbreuse américaine l'avait affranchi, un cachet irakien l'avait estampillé, et ce qui faisait le plus vrai était la calligraphie. Cette écriture américaine de base, simple et stéréotypée, que j'avais tellement observée lors de mes séjours aux États-Unis. Et puis, ce ton direct d'une légitimité indiscutable. Comment avait-il entendu parler de moi? Certains de mes romans avaient été traduits en anglais et avaient eu aux États-Unis un accueil plutôt confidentiel 5 années auparavant. J'avais déjà reçu sans surprise des plis de militaires belges ou français qui le plus souvent demandaient des photos dédicacées. Mais un 2e classe de l'armée américaine basée en Irak, cela me dépassait. Savait-il qui j'étais? À part l'adresse de mon éditeur correctement libellée sur l'enveloppe, rien ne le prouvait. J'ai besoin d'un peu de compréhension et vous, vous me comprendrez, je le sais. Mais comment pouvait-il savoir que moi, je le comprendrais? À supposer qu'il ait lu mes livres, ceux-ci étaient-ils les témoignages les plus flagrants de la compréhension et de la compassion humaine? Tant qu'à être une marraine de guerre, le choix de Melvin Maple me laissait perplexe. D'autre part, avais-je envie de ces confidences? Ne pas répondre du tout m'eût paru un rien salaud. Je trouvais une solution médiane. Je dédicassais aux soldats mes livres traduits en anglais, je les empaquetais et les lui postais. Ainsi, il me sembla avoir fait un geste pour le sous-fifre de l'armée américaine et j'eus ma conscience pour moi. 2 semaines ne s'étaient pas écoulées quand je reçus la réponse du 2e classe.
« Chère Amélie Nothon, merci pour vos romans. Vous voulez que j'en fasse quoi ? Et bonne année, Melvin Maple, Bagdad, le 1er janvier 2009. »
Je la trouvais un peu raide. Légèrement énervée, j'écrivis aussitôt cette lettre. « Cher Melvin Maple, je ne sais pas. Peut-être rééquilibrer un meuble ou surélever une chaise ou les offrir à un ami qui a appris à lire. Merci pour vos vœux. Autant de ma part. Amélie Nothon, Paris, le 6 janvier 2009. » Je postai ce billet en fulminant contre ma sottise. Comment avais-je pu espérer une autre réaction de la part d'un militaire ? Il répondit par retour du courrier.
« Chère Amélie Nothon, mes excuses, j'ai dû mal m'exprimer. Je voulais dire que si je vous avais écrit, c'est parce que j'avais déjà lu tous vos livres. Je n'allais pas vous embêter avec ça. C'est pour ça que je ne vous en avais pas parlé. Ça allait de soi. Mais je suis content de les avoir en double et avec vos dédicaces. Je pourrais les prêter aux copains. Désolé de vous avoir dérangé, sincèrement. » Melvin Maple, Bagdad, le 14 janvier 2009.
J'ai carquillé les yeux. Ce type avait lu tous mes livres et établissait un lien de cause à effet entre cette donnée et le fait qu'il m'écrive. Cela me plongea dans un abîme de réflexion. J'essayais de comprendre en quoi mes romans avaient pu inciter ce soldat à s'adresser à moi. D'autre part, j'étais ce personnage ridiculement ravi, l'auteur qui découvre que quelqu'un a tout lu de lui, que ce quelqu'un fut un 2e classe de l'armée américaine, me combla encore davantage. Cela me donna l'impression d'être un écrivain universel. J'éprouvais une grotesque bouffée d'orgueil. Dans les meilleures dispositions, je rédigeais cette épître. « Cher Melvin Maple, désolée pour ce malentendu. Je suis vraiment touchée que vous ayez lu tous mes livres. J'en profite pour vous envoyer mon dernier roman traduit en anglais, Tokyo Fiancé, qui vient de paraître aux États-Unis. Le titre me navre. Cela fait très film avec Sandra Bullock. Mais l'éditeur m'a affirmé que ni d'Ève ni d'Adam ne risquaient pas de trouver meilleure traduction. Du 1er au 14 février, je serai dans votre beau pays pour en assurer la promotion. Aujourd'hui, Barack Obama devient le président des États-Unis. C'est un grand jour. J'imagine que vous allez bientôt rentrer. Je m'en réjouis pour vous. Amicalement, Amélie Nothon, Paris, le 21 janvier 2009.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything.
Pendant ma tournée américaine, je ne manquais pas de répéter à qui voulait l'entendre que je correspondais avec un soldat basé à Bagdad, qui avaient lu tous mes livres. Les journalistes en furent favorablement impressionnés. Je ne savais pas au juste de quelle aura cette information me couronnait, mais les faits semblaient excellents. De retour à Paris m'attendait une montagne de courriers, dont deux plis d'Irak.
Chère Amélie Nothon, merci pour Tokyo fiancé. Ne soyez pas navrés, le titre me paraît bien. J'adore Sandra Bullock. Je me réjouis de le lire. Vous savez, j'aurai le temps. Nous n'allons pas rentrer tout de suite. Le nouveau président a dit que le retrait des troupes prendrait 19 mois. Et comme j'étais le premier arrivé, vous verrez que je serai le dernier parti. C'est l'histoire de ma vie. Vous avez raison. Barack Obama est l'homme qu'il faut. J'ai voté pour lui. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 26 janvier 2009. Chère Amélie Nothon, j'ai adoré Tokyo fiancé. Et j'espère que Sandra Bullock acceptera le rôle. Ce serait formidable. Quelle belle histoire. J'ai pleuré à la fin. Je ne vous demande pas si ça s'est vraiment passé. C'est tellement authentique. Au fait, comment c'était en Amérique ? Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 7 février 2009.
Je répondis aussitôt. Cher Melvin Maple, je suis si contente que vous ayez aimé mon livre. Cela s'est très bien passé dans votre beau pays. J'ai parlé de vous partout. Regardez cet article du Philadelphia Daily Report. Malheureusement, je ne pouvais pas préciser aux journalistes d'où vous veniez. Je sais si peu qui vous êtes. Si vous y consentez, dites-moi plus sur vous. Amicalement, Amélie Nothon, Paris, le 16 février 2009.
Chère Amélie Nothon, l'article du Philadelphia Daily Report m'a fait très plaisir. Je l'ai montré aux copains. Ils veulent tous vous écrire maintenant. Je leur ai dit que votre tournée américaine était finie et que ça ne vaut plus la peine. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux dans la presse. Vous voulez que je me présente ? J'ai 39 ans. Je suis l'un des plus vieux à mon échelon. Je suis entré dans l'armée tard, à 30 ans, parce que je n'avais plus de perspective d'avenir. Je crevais de faim. Mes parents se sont rencontrés en 1967, pendant le fameux « Summer of Love ». Pour eux, l'enrôlement a été une honte. Je leur ai dit qu'en Amérique, quand on crève de faim, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, en 1999, je me suis enrôlé. L'armée, en temps de paix, ça me paraissait cool. Bon, il y avait des choses qui se passaient en Europe de l'Est, en Afrique. Il y avait toujours Saddam Hussein en Irak. Mais je ne voyais rien d'énorme se profiler à l'horizon. Comme quoi, je n'ai pas de sens politique. La vie militaire n'avait pas que de bons côtés, je l'ai su tout de suite. Ces exercices, cette discipline, ces hurlements, les horaires, ça ne m'a jamais plu. Enfin, je n'étais plus clochard, et c'était important. J'avais compris mes limites, dormir dans le froid et la peur en était une. La faim en était une autre. À l'armée, on mange. La nourriture est bonne, abondante et gratuite. Le jour de mon enrôlement, j'ai été pesé, 55 kilos pour 1m80. Je crois qu'il n'était pas dupe quant au motif de ma conscription. Je sais que je suis loin d'être le seul à devenir soldat pour cette raison. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 21 février 2009.
Cher Melvin Maple, merci pour votre très intéressante lettre. Je l'ai beaucoup aimée. J'ai l'impression de mieux vous connaître. N'hésitez pas à me raconter la suite ou d'autres parties de votre vie, comme vous voulez. Amicalement, Amélie Nothon, Paris, le 26 février 2009.
Chère Amélie Nothon, à l'armée, on gagne un peu d'argent. et avec mon salaire, j'ai acheté des livres. Par hasard, j'ai lu le premier des vôtres à avoir été traduit en américain, The Strangers Next Door. J'ai accroché. Je me suis procuré tous vos romans. C'est difficile à expliquer, mais vos bouquins me parlent. Si vous me connaissiez mieux, vous comprendriez. Ma santé se détériore et je suis très fatigué. Sincèrement, Melvin Maple, Bagdad, le 2 mars 2009.
Ce billet me plongea dans l'inquiétude. J'imaginais qu'il ne manquait pas de raison d'être malade en Irak. L'emploi militaire de substances toxiques, le stress, voire quelques blessures au combat. Par ailleurs, je lui avais déjà demandé de m'en raconter davantage sur lui. Je ne pouvais quand même pas le supplier. Était-ce sa santé qui l'en avait empêché ? Il me semblait sentir une réticence d'un autre ordre. Je ne savais quelle attitude adopter et ne répondis pas. Bien m'en prit, je reçus une nouvelle lettre.
Chère Amélie Nothomb, je vais un peu mieux et trouve la force de vous écrire. Il faut que je vous explique. Je souffre d'un mal de plus en plus courant dans les troupes américaines envoyées en Irak. Depuis le début de l'intervention, en mars 2003, le nombre de malades a doublé et la proportion ne cesse d'augmenter. Sous l'administration Bush, on cachait notre pathologie, vue comme dégradante pour l'image de l'armée américaine. Depuis Obama, les journaux commencent à parler de nous, mais sur la pointe des pieds. Vous imaginez sûrement une maladie vénérienne. Vous vous trompez. Je suis obèse. Ce n'est pas ma nature. Enfant, adolescent, j'étais normal. Adulte, je n'ai pas tardé à devenir maigre à cause de la pauvreté. Je me suis enrôlé en 1999 et j'ai grossi très vite. Mais pas de façon choquante. En un an, j'ai atteint ce qui devait être mon poids normal de soldat musclé, 80 kilos. Je m'y suis maintenu sans effort jusqu'à la guerre. En mars 2003, j'ai fait partie du premier contingent envoyé en Irak. Sur place, les problèmes ont commencé aussitôt. J'ai connu mes premiers vrais combats avec les tirs de roquettes, les chars, les corps qui explosent à côté de vous et les hommes que vous tuez vous-même. J'ai découvert la terreur. Il y a des gens courageux qui supportent. Moi, pas. Il y a des gens à qui ça coupe l'appétit, mais la plupart, dont moi, réagissent à l'opposé. On revient du combat choqué, éberlué d'être vivant, épouvanté, et la première chose que l'on fait, c'est se jeter sur la bouffe. On démarre par une bière et on attrape le consistant. Hamburger, frites, sandwich, apple pie, brownie, glace. On peut y aller à volonté. On y va. C'est pas croyable ce qu'on peut avaler. On est fou. Quelque chose est cassé en nous. On ne peut pas dire qu'on aime manger comme ça. C'est plus fort que nous. On pourrait se tuer de nourriture. C'est peut-être ce qu'on cherche.
What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt.
Chaque semaine, on doit demander des tenues de la taille au-dessus. Ça nous gêne, mais personne n'est capable d'inverser la tendance. Et puis, ce n'est pas notre corps. Cette histoire arrive au corps de quelqu'un d'autre. Cette nourriture, nous la balançons dans le ventre d'un inconnu. La preuve, c'est que nous le sentons de moins en moins. Ça nous permet d'en avaler plus. Ce que nous éprouvons, ce n'est pas du plaisir, mais un affreux réconfort. Le plaisir, je connais. Ce n'est pas ça. Le plaisir, c'est quelque chose de grand. Par exemple, faire l'amour. Ça ne m'arrivera plus. D'abord parce que personne ne voudra de moi. Ensuite, parce que je n'en suis plus capable. Comment mouvoir, si peu que ce soit, un corps de 180 kilos? Vous vous rendez compte? Depuis que je suis en Irak, j'ai pris 100 kilos. 100 kilos, c'est une personne énorme. Je me suis enrichi d'une personne énorme depuis que je suis à Bagdad. Puisqu'elle m'est venue ici, je l'appelle Scheherazade. Elle me parle des nuits entières. Elle sait que je ne peux plus faire l'amour. Alors elle remplace cet acte par de belles histoires qui me charment. Je vous confie mon secret. C'est grâce à la fiction de Scheherazade que je supporte mon obésité. Si les gars savaient que je donne à ma graisse un nom de femme, je ne dois pas vous faire un dessin sur ce qui m'arriverait. Mais vous, je sais que vous ne me jugerez pas. Dans vos livres, il y a pas mal d'obèses. Vous ne les montrez jamais comme des gens sans dignité. Et dans vos livres, on s'invente des légendes pour continuer à vivre. Je sais que ça ne me protège de rien. Mourir d'obésité, ça existe. Et puisque je vais continuer à grossir, ça va me tomber dessus. Mais si Scheherazade veut de moi jusqu'au bout, je mourrai heureuse. Voilà. Scheherazade et moi, nous voulions vous raconter ça. Sincèrement. Melvin Maple, Bagdad, le 5 mars 2009.
Cher Melvin Maple, merci pour votre stupéfiante missive que je viens de lire et relire avec ahurissement et émerveillement. Ce que vous m'écrivez me bouleverse. Plus j'y repense, plus je suis révoltée, sidérée et éblouie. Puis-je vous prier, Scheherazade et vous, de me raconter encore et encore cette histoire? Je n'ai jamais rien lu de pareil. Amicalement, Amélie Nothomb, Paris le 10 mars 2009. C'est avec fièvre que j'attendis la prochaine épître de Melvin. J'étais continuellement assaillie d'images incroyables. Je voyais tour à tour des Irakiens déchiquetés, des explosions qui me fissuraient le crâne, puis des soldats américains baffrant de façon traumatisante jusqu'à reproduire dans leur ventre des explosions du front. Ensuite, je voyais quelqu'un qui pouvait être Melvin Maple et qui couchait, suffoqué dans la nuit. Je calculais que sur les 100 kilos acquis, ceux situés sur la poitrine et le ventre devaient en représenter la moitié. 50 kilos pour Scheherazade était un poids vraisemblable. Je croyais donc en l'existence de l'amante allongée sur son cœur. Et je voyais l'idylle, la conversation intime, le surgissement de l'amour là où on l'attendait le moins. En 6 années de guerre, on avait dépassé les 1001 nuits. Certes, il n'y avait pas que l'angélisme dans son récit, loin de là. Mais la puissance de la vision qui permettait à mon correspondant de survivre à l'intolérable forçait le respect.
Chère Amélie Nothomb, votre réaction me touche. Cependant, j'espère que vous ne vous exagérez pas le lyrisme de ma situation. Vous savez, même si Obama est président, la guerre n'est pas finie. Elle ne le serait que si le camp d'en face le considérait. Aussi longtemps que nous serons ici, nous serons en danger. La moindre sortie nous transforme en cible. Et il y a encore des tués dans nos rangs. C'est qu'on nous en veut ici. Et sans doute, y a-t-il de quoi ? Les obèses de mon espèce sont toujours en première ligne. Inutile de vous en expliquer la raison, ça saute aux yeux. Les Irakiens souffrent tant de la faim que notre obésité les nargue. C'est nous qu'ils veulent dégommer en premier. Ma conviction est que les chefs américains veulent la même chose. C'est aussi pour ça que les obèses sont assurés de rester ici jusqu'au dernier jour fixé par Obama, pour multiplier les probabilités de notre assassinat. Après chaque conflit, on a vu revenir aux États-Unis des soldats atteints de pathologies abominables qui ont donné mauvaise conscience au pays entier. L'obésité, elle, n'est pas bizarre en Amérique. Elle est seulement ridicule. L'armée des USA peut tout accepter, sauf d'être grotesque. Il est indispensable qu'elle véhicule une image virile, de force dure et courageuse. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. À supposer qu'il y ait eu des doutes sur la question, il n'y en a plus aujourd'hui. Ce conflit était donc une injustice scandaleuse. Je n'essaie pas de me blanchir. Si je suis moins coupable que George W. Bush et sa bande, je suis coupable quand même. J'ai participé à des horreurs. J'ai tué des soldats. J'ai tué des civils. J'ai explosé des habitations dans lesquelles il y avait des femmes et des enfants, morts par ma faute. Parfois, je me dis que Scheherazade est l'une de ces Irakiennes que j'ai massacrées sans les voir. Sans métaphore, je porte le poids de mon crime. Si mon existence n'était composée que de nuit, je serais le plus heureux des hommes. Mais il y a des jours qui m'accablent au sens propre du terme. Il faut transporter ce corps. Et on ne dira jamais assez le calvaire de l'obèse. Moi qui ne peux déposer mon fardeau à aucun instant. La joie simple de marcher d'un pas léger sans me sentir écrasé me manque terriblement. Et j'ai envie de crier aux gens normaux de profiter de cet invraisemblable privilège dont ils ne paraissent pas conscients. Gambader, se mouvoir avec insouciance, jouir de la danse, des déplacements les plus ordinaires. Nous sommes obèses à cause de George W. Bush et sa bande. Ce sont des criminels. Au nom d'un mensonge, ils ont envoyé à la mort des milliers d'innocents et gâché la vie des autres qui y survivront. Je voudrais leur nuire davantage. Hélas, j'appartiens à une espèce assez inoffensive. C'est encore en bouffant que je sabote le plus le système. Le problème est la dimension kamikaze de mon acte. Je me détruis, puisque je n'atteins la cible. Quand même, je suis assez fier de ma dernière victoire. Je n'entre plus dans les tanks. La porte est trop étroite. Vous avez vu la longueur de ma lettre ? Je ne reviens pas d'avoir tant écrit. J'en avais besoin. J'espère que je ne vous gave pas. Melvin Maple, Bagdad, le 17 mars 2009.
D'habitude, je ne raffole pas des longues missives. Ce sont généralement les moins intéressantes. Depuis plus de 16 ans, j'ai reçu un si grand nombre de courriers que sans le vouloir, j'ai développé une théorie instinctive et expérimentale de l'art épistolaire. Cher Melvin Maple, merci pour votre courrier qui m'intéresse de plus en plus. Ne craignez pas de me gaver, vous ne m'écrirez jamais assez à mon gré. Oui, votre boulimie, comme celle de vos comparses, est un acte de sabotage, je vous en félicite. On avait déjà entendu le slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Vous, c'est « Faites le gueuleton, pas la guerre ». C'est infiniment louable, mais j'ai conscience du danger que vous courez. Et je vous prie, dans la mesure du possible, de prendre soin de vous. Amicalement, Amélie Nothomb, Paris, le 24 mars 2009.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Voilà, j'espère que cette correspondance vous a intéressé. Quoique fictive, elle est basée sur des faits bien réels et on comprend mieux pourquoi ce livre a été si apprécié à sa sortie. Il y a d'abord la guerre déclenchée par les Américains en 2003 contre Saddam Hussein, sous un prétexte fallacieux, accusé de détenir des armes de destruction massive. Il y a bien sûr derrière l'horreur du 11 septembre, encore bien présente. Et puis, il y a un article de USA Today paru en 2010 sur une épidémie d'obésité dans l'armée américaine basée en Irak et qui a inspiré cette histoire à Amélie Nothon. C'est ce cocktail qui fait l'intérêt de ce roman « Une forme de vie ». Le problème de l'obésité perdure dans l'armée américaine puisqu'elle concerne à présent 21,6% des effectifs. La musique de Johnny Cash fait écho à la mélancolie de Melvin. Je vous signale que vous pourrez trouver sur le site de Donnez-moi de vos nouvelles un lien pour écouter un remarquable vidéoclip intitulé Ryan du groupe Mano Militari qui met en scène un jeune soldat en Irak. Un grand merci à Jean-Michel qui assure la technique et me permet de continuer Donnez-moi de vos nouvelles. Un autre grand merci à Jean-Pierre qui m'accompagne chaque mois dans la découverte d'une nouvelle lecture. Je vous retrouverai le mois prochain pour un nouvel échange de lettres. En attendant, bonne Saint-Valentin et lisez, écrivez et n'oubliez pas, donnez-moi de vos nouvelles.
Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.